aussi, ils font un service de baptême. Donc, on a au moins deux églises évangéliques à Drummondville qui font des services de baptême ce matin. N'est-ce pas merveilleux? Et on fait partie du même corps, de la même famille spirituelle. Ça, c'est vraiment, vraiment merveilleux. Mais ce matin, je veux qu'on se prépare pour recevoir la parole de Dieu. Et il y a des choses que j'ai à cœur à partager. Et je crois que c'est bon pour ceux qui vont se faire baptiser, mais c'est bon pour nous tous. Et il y a peut-être des personnes ici présentes qui ont posé des questions. À quoi sert le baptême? Pourquoi est-ce que les gens vont se faire baptiser? Moi, j'étais déjà baptisé en tant que bébé, puis mes parents m'ont fait baptiser. Donc, il y a toutes sortes de questions qui peuvent se poser lors d'un service de baptême. Et qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Nous voulons voir dans la parole de Dieu vraiment la signification et la raison pour laquelle il faut qu'on se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Et puis, ça va nous changer et nous aider. Mais juste avant d'aller dans les Écritures, on va prier, on va faire une petite déclaration qu'on aime faire ici. Et si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à prendre votre Bible. Sinon, il y a une feuille avec presque tous les versets qui sont là. Parce que quand on lit la parole tantôt, je ne veux pas que vous écoutiez cette parole comme une parole humaine. Ce n'est pas un livre humain, c'est vraiment un livre inspiré de Dieu. Et je pense qu'on a besoin par la foi de recevoir chaque parole telle qu'elle est, une parole inspirée de Dieu. Amen. Donc, on va faire cette déclaration. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours changé. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc, si vous voulez aller avec moi à 2 Corinthiens chapitre 5, nous allons lire plusieurs versets de la parole qui sont très importants, qui vont nous aider à comprendre les choses ce matin. Mais à 2 Corinthiens chapitre 5, le 17e verset, c'est Dieu qui parle à travers l'apôtre Paul. Il dit ceci, il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, ça, c'est le titre du message ce matin. C'est une vie nouvelle en lui. Tout le monde dit en lui. Ça, c'est la clé. La Bible dit que si quelqu'un... C'est-à-dire que c'est conditionnel. C'est pas tout le monde qui est en Christ. C'est seulement pour ceux qui ont pris une décision d'accepter par la foi le don gratuit de la vie éternelle. Et si vous avez confessé avec votre bouche le Seigneur Jésus, si vous avez cru dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, la Bible dit que vous êtes sauvés. Et pas juste pardonnés, mais sauvés. Pas juste une question d'avoir un libre accès au ciel maintenant. C'est pas une question tout simplement que vous avez, on pourrait dire, un billet gratuit au ciel à votre mort. Mais la Bible dit ici que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et dans le grec, ça veut dire vraiment, littéralement, une nouvelle espèce de créature qui n'a jamais existé auparavant. N'est-ce pas intéressant? Donc, c'est pas une question. Il y a trop de personnes qui regardent la vie chrétienne comme une religion, une code d'éthique ou un autre mode de vie qu'on va accepter. Au lieu de vivre comme telle personne, maintenant je vais accepter Jésus, mais je vais juste essayer de faire mon possible, de suivre Jésus, de suivre ses enseignements, d'appliquer sa parole dans ma vie. Mais c'est pas juste une question de vouloir suivre avec la force un code d'éthique ou un nouvel mode de vie. Vous êtes d'accord? Si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle espèce de création qui n'a jamais existé auparavant. C'est-à-dire que vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Vous êtes une nouvelle personne. Ça, c'est du bon nouvel, n'est-ce pas? Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Quelles choses? Votre ancienne vie est supposée d'être passée. Le passé, c'est le passé. Si c'est le passé, je continue plus de même. Vous êtes d'accord? Et c'est ça qu'on devrait voir chez les chrétiens. Ceux qui sont vraiment en Jésus-Christ, on devrait voir une différence. On devrait voir changement. On devrait voir une différence entre quelqu'un qui est en Christ et quelqu'un qui n'est pas en Christ. On devrait voir la différence, c'est comme la différence entre la lumière et les ténèbres, comme la Bible dit. Les gens ne devraient même pas être obligés de poser la question. Lui, est-ce qu'il est vraiment sauvé? Lui, est-ce qu'il est vraiment chrétien? Il devrait voir un changement. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. On sait que toutes choses ne sont pas de même de votre vie dès que vous recevez Jésus, parce que si vous êtes chauve avant d'être né de nouveau, vous allez être encore chauve après, vous êtes d'accord? Si vous êtes un homme avant d'être sauvé, vous serez encore un homme le lendemain, vous êtes d'accord? Il y a certaines choses qui ne changent pas. Votre auto ne va pas changer tout de suite. Il y a des choses naturelles à l'extérieur qui ne changent pas tout de suite. Mais quand la Bible dit que toutes choses sont devenues nouvelles, ça parle des choses spirituelles. Dans votre fort intérieur, vous n'êtes plus la même personne que vous étiez. Et parce que vous êtes changé dans votre cœur, dans votre homme intérieur, dans votre fort intérieur, puisqu'il y a un changement là, ce changement va effectuer et on pourrait dire, influencer les changements à l'extérieur. Amen? Donc, c'est ça qu'on veut voir aujourd'hui. Regardons, il y a un autre verset de la parole en Colossiens chapitre 2. Prenons le temps d'aller voir Colossiens chapitre 2. Alléluia. Tout le monde dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. En fait, la Bible dit en Colossiens chapitre 2, verset 10, que vous avez tout pleinement en lui. Comment dire en lui? En lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et on était ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Tout le monde dit avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant par elles, par la croix. Encore une fois, verset 10, vous avez tout pleinement en lui. Donc vraiment, la question aujourd'hui, la plus importante pour n'importe quelle personne qui fait partie de la race humaine. Est-ce qu'il y a des personnes qui font partie de la race humaine ce matin? On n'a pas des extraterrestres ici? Si vous êtes humain, la plus grande question qu'il faut que vous vous posiez, c'est « Est-ce que je suis en Christ? » Parce que si je ne suis pas en Christ, je suis fait. Je n'ai pas tout pleinement. Mais si je suis en lui, j'ai tout pleinement. Tout ce dont j'ai besoin dans ma vie spirituelle, émotionnelle, physique, j'ai tout pleinement en lui. Donc la question, en qui êtes-vous aujourd'hui? Et il y a seulement deux réponses possibles. Soit vous êtes un Adam, le premier homme, ou vous êtes un Jésus-Christ qui est le deuxième Adam, le deuxième homme. Qu'est-ce que je veux dire? Quand Dieu a créé Adam, le premier homme, il lui a donné l'autorité et domination, il lui a donné la vie, il a soufflé en lui le souffle de vie. Dans ses narines est entré le souffle de vie, l'Esprit de Dieu lui-même est entré en Adam et il est devenu un être vivant. Vous êtes d'accord? Mais qu'est-ce que nous savons, c'est que Adam a péché et Adam est passé de la vie spirituelle à la mort spirituelle. Il est mort spirituellement. Vous êtes d'accord? Et tous ceux qui sont nés après, tous les membres de sa postérité qui sont venus au monde après le péché d'Adam, sont nés en Adam et sont coupables dès le début même du péché. Vous êtes d'accord? Donc tous ceux qui font partie de la race humaine sont nés en Adam. Adam, dans un sens, est né de nouveau à l'inverse. Il était en vie avec Dieu, en communion avec Dieu, en contact avec Dieu, mais dès qu'il a péché, il est passé de la vie à la mort, il est mort spirituellement, il était séparé d'avec Dieu. Et tous ceux qui viennent au monde après sont séparés d'avec Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la vérité, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, tout ce que le premier homme a perdu la vie éternelle. Il a perdu la prospérité. Il était même jeté dehors le jardin d'Éden. Il a perdu la domination et l'autorité. Tout ce que le premier Adam a perdu, le deuxième Adam a regagné. Jésus est venu, la Bible l'appelle le deuxième Adam, 1 Corinthiens chapitre 15, et on voit que le deuxième Adam, là où le premier a échoué, le deuxième a réussi. Dans un jardin, le premier Adam n'était pas capable de résister à la tentation, il a cédé à la tentation. Mais dans un jardin, alléluia, le deuxième Adam a dit, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Amen. Donc là, tout ce que le premier Adam a perdu, le deuxième Adam a gagné. Et forcément, c'est pas suite à un choix de votre part, mais forcément et automatiquement, chaque membre de la race humaine est né dans le premier Adam, automatiquement. Il est né dans le péché, il est destiné à la mort spirituelle, il est destiné à l'enfer et passer l'éternité séparé d'avec Dieu. Et c'est pourquoi on a la joie d'annoncer une bonne nouvelle. C'est que en Jésus-Christ, on peut changer, alléluia, de vie. On peut échanger notre vieille vie en Adam et recevoir une nouvelle vie en Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Père, il voit deux catégories de personnes seulement. Il voit ceux qui sont en Adam et il voit ceux dont leur vie est cachée en Jésus-Christ. Et la question... Le premier Adam a échoué. Le deuxième Adam a réussi. En qui est-ce que vous vous trouvez ce matin? En Adam ou en Christ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être en Jésus-Christ? C'est pas la foi. C'est pas par les œuvres. Il n'y a rien qu'on peut faire pour mériter le salut. C'est une chose, on fait confiance à Dieu et on fait confiance à l'œuvre de Jésus-Christ. Quelqu'un avait besoin de payer pour le péché d'Adam. Quelqu'un avait besoin de mourir et de verser du sang. Nous avons mérité la mort, mais Jésus a dit, je t'aime tellement que je suis prêt à prendre ta place. Je suis prêt à laisser mon sang couler. Je suis prêt à payer la dette que tu dois. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et si, par la foi, on dit, oui, j'accepte. Dès que je confesse avec ma bouche, Seigneur, je te fais confiance, je confesse que tu es mon maître, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Dès que je fais cette confession, le Seigneur me prend et il me met en Jésus-Christ. Et je deviens une seule plante avec Jésus. Et ma vie et sa vie deviennent une seule vie. Ma vie est cachée en Jésus. Tout ce, en fait, on a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Regardons dans notre verset, Romains chapitre 6. C'est dans vos notes. Ou sinon, regardez dans votre Bible. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, tout le monde dit baptisé en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que Christ, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Donc, c'est quoi vraiment le mystère du baptême? C'est quoi vraiment la signification? Ça signifie notre identification totale avec Jésus-Christ. En fait, qu'est-ce que nous voyons? C'est que en lui, nous sommes morts, avec lui, nous sommes enterrés, et avec lui et en lui, nous sommes ressuscités. Amen. Ce que nous voyons, c'est que Jésus-Christ, qui était parfait, est devenu pour un peu de temps tout ce que nous étions. Jésus est devenu péché pour un peu de temps. Le Père était obligé de tourner son visage. Il ne pouvait pas regarder son Fils sur la croix. Et c'est pourquoi Jésus a dû crier, « Oh, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus, celui qui n'a jamais tort, celui qui n'a jamais péché, celui qui était tenté à toutes choses comme nous, mais sans avoir péché, celui qui était parfait, le Fils de Dieu lui-même, il a pris notre place et il est devenu péché pour nous. Et quand Dieu nous voit, quand il voyait Jésus sur la croix, il nous voyait en lui. C'est-à-dire tous les gaffes que vous avez faites. À chaque fois que vous avez commis un péché, une erreur, peu importe qu'est-ce que vous avez fait. Si vous avez menti, si vous avez volé, si vous avez tué, peu importe qu'est-ce que vous avez fait, tous vos péchés, quand vous avez accepté Jésus, confessez Jésus comme Seigneur et Maître. Maintenant, Dieu voit tous ses péchés condamnés et payés en Jésus-Christ. Dans sa mort, nous sommes devenus une seule plante, conforme avec lui, identifiés avec lui dans sa mort. N'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est pourquoi j'ai plus besoin de payer pour mes péchés, parce que je suis en Christ et je suis mort avec Christ et mes péchés ont été lavés et payés là sur la croix il y a 2000 ans. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Je n'étais pas seulement mort avec lui, j'étais aussi enterré avec lui. Et ça, c'est vraiment la signification du baptême. Tantôt, on va enterrer des personnes ici. On va enterrer des personnes qui ont reçu Jésus comme sauveur, comme maître, et ils vont laisser dans ses os, on peut dire, spirituellement parlant, ils vont laisser le vieil homme, la vieille femme, dans ses os, dans les sépulcres, dans le tombeau, dans la cimetière spirituelle. Ils vont dire au revoir à l'ancienne vie et ils vont être conformes en Jésus-Christ dans sa mort, dans son enterrement, mais puis ils vont sortir de ses os et Dieu va voir, alléluia, comme il nous a vus en Christ sur la croix, il nous voit en Christ lors de la résurrection aussi. Et maintenant, il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et quand il me voit aujourd'hui, il me voit en Jésus-Christ, assis à la droite de Dieu. Je suis un homme de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis quelqu'un qui a de l'autorité ici sur la terre parce que je suis en Jésus-Christ. Je ne suis pas un bon à rien, je suis enfant de Dieu. Amen. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on réalise que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Trois choses que je veux que vous souligniez aujourd'hui concernant cette vie nouvelle en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai une nouvelle identité en lui. Je ne suis plus la même personne que j'ai été. N'est-ce pas intéressant que souvent dans la Bible, Dieu change le nom des personnes? Saul de Tarse est devenu qui? Paul. On voit qu'Abraham est devenu qui? Abraham. On voit que souvent, les personnes, ils avaient besoin de changer complètement leur identité. Et si vous êtes en Jésus-Christ, vous avez une nouvelle identité. Vous n'êtes plus pécheur si vous êtes en lui. Il y a même des chrétiennes qui ont des cœurs sincères qui vont dire, « Mais moi, je ne suis qu'un pécheur sauvé par la grâce. » Si vous êtes en Christ, vous n'êtes plus un pécheur sauvé par la grâce. Vous êtes la justice de Dieu en Jésus. Amen. Galates 2, 20 dit, c'est dans vos notes, c'est Paul qui parle, il dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Vous avez besoin de vous voir comme une nouvelle création avec une nouvelle identité en Jésus-Christ. Paul a dit en 2 Corinthiens chapitre 7, il a dit, nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons usé de personne. Là, c'est, selon le naturel, c'est le même homme qui a persécuté l'Église, qui a tué et lapidé Étienne et qui a ravagé les Églises et mis les chrétiens en prison. Plus tard dans sa vie, il dit, j'ai fait tort à personne. Comment est-ce qu'un meurtrier était capable de dire, j'ai fait tort à personne? Parce que le meurtrier était enterré avec Jésus-Christ. Et il est ressuscité pour marcher en nouveauté de vie. Il avait cette révélation. L'homme que j'étais n'existe plus. Je suis une nouvelle création, une nouvelle espèce de personne qui n'a jamais existé auparavant. Et quand ceux qui vont se faire baptiser aujourd'hui, quand ils sortent de ces eaux, ils devraient vivre le restant de leur jour en se souvenant de cette journée où ils ont enterré la vieille personne pour commencer une nouvelle vie en lui. Amen. Il y a plusieurs qui sont déjà chrétiens depuis un certain temps, mais aujourd'hui, c'est une journée spéciale où on va dire publiquement qu'on n'a pas honte de Jésus. Publiquement, on va dire, je suis prêt à obéir à Jésus. Publiquement, on va dire, je suis prêt à marcher dans ses traces. Publiquement, on va dire que la personne que j'étais avant n'existe plus. J'ai été crucifié avec lui. Maintenant, si je vis, je vis par la foi dans le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 21. Car celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus est devenu pour un peu de temps qu'est-ce que nous étions, afin que nous puissions venir pour éternité ce qu'il est. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alléluia. J'ai une nouvelle identité en Jésus, mais aussi j'ai une nouvelle nature en lui. Regardons Colossiens chapitre 3 et verset 10. Tout le monde dit, j'ai une nouvelle nature en lui. Si vous vous voyez comme un pécheur, devinez quoi? Vous allez pécher. Si vraiment, tel qu'un homme pense dans son cœur, tel qu'il est. Et si vous vous voyez comme pécheur, sauvé par la grâce, vous allez pécher et toujours demander grâce, grâce, grâce. Tandis que si vous vous voyez en Jésus comme la justice de Dieu, vous allez pouvoir mener une vie sainte, irrépréhensible ici sur la terre. Et si vous péchez occasionnellement, vous allez pouvoir demander pardon. Et Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner. Amen. Mais vous n'êtes plus un pécheur professionnel. Vous êtes un chrétien, une chrétienne. Vous êtes homme de Dieu, femme de Dieu. Vous êtes une nouvelle création avec une nouvelle identité et une nouvelle nature. Autrefois, vous aviez la nature de votre père, qui était Satan, une nature de haine, une nature d'un menteur, d'un meurtrier. Mais vous n'avez plus sa nature. Maintenant que vous êtes en Jésus-Christ, si vous êtes Adam, en Adam, vous avez encore la nature d'Adam. Mais si vous êtes en Christ, vous avez la nature de Jésus-Christ. Amen. Colossiens 3, 10 dit, dans la Bible française courante, « Et vous, vous êtes revêtus de la nouvelle nature. » Tout le monde dit la nouvelle nature. « Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. » Alléluia! 2 Pierre chapitre 1. Je veux lire cela aussi dans vos notes. 2 Pierre chapitre 1. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, par ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine. » Tout le monde dit la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On devrait voir une différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants du diable font naturellement les choses du diable. Mais les enfants de Dieu font naturellement les œuvres de Dieu. J'ai une nouvelle nature. Dieu est quoi? Dieu est amour. Donc ma nature, c'est une nature d'amour. Je suis né de Dieu. Dieu est amour. Je suis né d'amour. Et ma nature, c'est d'aimer Dieu et d'aimer ma femme, d'aimer mes enfants, d'aimer mon entourage comme je m'aime moi-même. Ça, c'est ma nouvelle nature. Je ne suis plus un pécheur. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen? Troisième chose, j'ai une nouvelle identité, j'ai une nouvelle nature, mais aussi j'ai une nouvelle direction, ou on peut dire orientation en lui. Je ne vis plus la vie que je vivais autrefois. Je ne vais plus dans la direction que je suivais avant de connaître Jésus-Christ. Partout dans les Écritures, Dieu dit, croyez à l'Évangile. Repentez, il faut se repentir, il faut croire. La repentance et la croyance vont de pair. Quand Dieu nous appelle à se faire baptiser, c'est toujours lié avec une repentance. C'est-à-dire que le mot « se repentir », ça venait d'un terme militaire qui était utilisé que quand les soldats filaient dans un sens, quand le capitaine disait « repentez », vous, ils se tournaient de bord, ils allaient dans l'autre sens. Et quand Dieu nous a appelés à être en Jésus-Christ, avant, je suivais mes propres voies, je suivais ma propre direction, je suivais dans le fond la direction du monde et de Satan. Mais quand je suis en Jésus-Christ, je suis appelé à me repentir et de suivre Jésus. Amen? Et il y a un problème si quelqu'un se dit chrétien, mais qui continue quand même dans ses anciennes habitudes et dans ses anciennes voies. Amen? Dieu nous appelle à la repentance. Regardons ici 1 Pierre chapitre 4, soit dans votre Bible ou dans vos notes. 1 Pierre 4, verset 1. Aussi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais vivre selon la volonté de Dieu. Combien de vous voulez vivre selon la volonté de Dieu? Vivre selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Notre temps ici est limité. Il faut vivre selon la volonté de Dieu. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Ce verset me montre que j'ai déjà eu assez de temps dans ma vie passée pour faire la volonté des hommes et pour suivre les convoitises. Maintenant, c'est le temps de me repentir pour le temps qui me reste ici sur la terre, de suivre Jésus et de faire sa volonté. Combien de vous voulez faire sa volonté? Quand ces personnes vont sortir de ces eaux de baptême, ça c'est leur décision, en Jésus-Christ, de vivre une vie de pureté et de sainteté. Pas avec leur propre force, parce qu'ils ne seraient pas capables, mais avec la force et la puissance qui viennent de lui. Amen? Alléluia. 2 Corinthiens 5, 15, on va finir avec ceci. Et pourquoi est-il mort pour tous? Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener selon leur gré une petite vie égoïste, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont appelés à laisser à côté leur petite vie égoïste et de suivre avec tout leur cœur cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Une vie qui n'est pas petite, mais grande. Une vie qui va durer pour éternité. Alléluia! Et c'est merveilleux de voir une personne qui autrefois était morte dans le péché, de le voir maintenant en Jésus-Christ, mort avec Christ, enterré avec Christ et ressuscité avec Jésus-Christ pour marcher dans une vie nouvelle. Alléluia! Donc, ceux qui vont se faire baptiser aujourd'hui, je vais vous inviter maintenant à aller vous préparer. On va chanter juste un ou deux chants, louer le Seigneur pendant qu'ils se préparent, et puis on va se réjouir avec eux lors de leur baptême. Est-ce que vous avez hâte de voir ça?
Oui.
Alléluia. 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 Et juste avant, parce que leurs vies ont été changées, transformées par toi, par ta puissance. Alléluia. Seigneur, merci qu'ils ont pris une décision de t'obéir. Alléluia. Merci, Seigneur. On prie que cette expérience soit une belle expérience pour eux, mais aussi pour toute notre Église, que ce soit un témoignage de ta fidélité, de ton amour, de ta bonté. Merci, Père Céleste. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Jésus a dit, allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à chaque création. Celui qui croit et qui se fera baptiser sera sauvé. Celui qui croit et qui se fera baptiser sera sauvé. Des personnes posent souvent la question, est-ce que c'est obligatoire d'être baptisé pour aller au ciel? Non. Non, pas forcément, parce qu'on a quelques exemples dans le Nouveau Testament. On voit des personnes qui, même avant d'être baptisées dans l'eau, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont parlé une autre langue, donc on sait qu'ils étaient nés de nouveau. Mais, je me pose toujours la question, si quelqu'un ne veut pas se faire baptiser, pourquoi? Je me suis demandé, moi-même, laisse-moi reculer un petit peu. Jésus a dit, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. C'est un des premiers commandements que Jésus nous a donné. Donc, si quelqu'un a confessé que Jésus comme Seigneur, Seigneur c'est un maître, n'est-ce pas? Il dit, mais moi j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur, mais je ne veux pas l'obéir dans les eaux de baptême. Il y a un problème en quelque part. N'est-ce pas? Si on dit, bon, oui, je veux être sauvé, je veux être chrétien, je veux pas aller à l'enfer, mais je veux pas me faire baptiser. Soit vous avez manqué de connaissances, soit c'est une question de désobéissance. Posez-vous la question, est-ce que Jésus est vraiment votre Seigneur? Est-ce qu'il est vraiment votre Maître? Parce que la première chose qu'il vous demande à faire, c'est de vous faire baptiser. Amen. Alléluia. Je pense que trop souvent dans les églises, on prêche un évangile qui est à moitié vrai. On dit que le salut c'est gratuit et c'est gratuit. On dit que tout ce que tu as besoin de faire, c'est de répéter une prière. Mais vous savez-vous, répéter une prière, c'est pas assez pour être né de nouveau. N'importe qui peut répéter une prière. Qu'est-ce qui compte, c'est de confesser le Seigneur Jésus. Seigneur veut dire maître. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui prends le volant, Seigneur. C'est toi qui conduis ma vie. Amen. La Bible ne dit pas que si tu confesses avec ta bouche le Sauveur Jésus. Non. C'est marqué, si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur. Donc, répéter une prière peut te sauver. Si ta prière est authentique, fais avec foi et tu es prêt à céder ta volonté à la volonté de Jésus. Amen. Et si ta volonté est cédée à la volonté de Jésus, tu vas vouloir te faire baptiser parce que c'est la première chose qu'il te demande à faire. Amen. Une chose à penser, peut-être il y a quelques autres qui ont dit, hey, moi aussi je veux me faire baptiser. Donc, la prochaine fois, vous serez prêts. Amen. Alléluia. Merci Père Céleste. Alléluia. Alléluia. On peut chanter juste un chant pendant qu'ils finissent. Elles vont terminer dans juste une minute. On va se lever debout. On va chanter un chant, puis on va les faire venir et les faire baptiser. On ne voulait pas qu'ils soient obligés de rester pendant toute la réunion habillés pour le baptême parce que ça serait un peu trop froid. On leur donne la chance de terminer ce matin. J'aimerais que vous fermiez les yeux et que vous preniez un temps de réflexion. Peut-être il y a des personnes ici présentes qui diraient, mais c'est beau à voir les personnes prendre une décision de suivre Jésus, marcher dans ses traces. Mais moi, je suis même pas sûr et certain de connaître Jésus. Je n'ai pas l'assurance d'être né de nouveau, d'être en Christ. Et peut-être vous êtes ici, vous vous posez la question, est-ce que je suis toujours en Adam ou est-ce que je suis en Christ? Bonne nouvelle, c'est que Dieu ne fait exception de personne. Il nous aime tous. Il a donné son Fils pour quiconque croit. Et ce matin, si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour vos péchés, qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il vit éternellement. Et si tu es prêt à céder ta volonté à sa volonté, lui donner ta vie, trouver une nouvelle identité en lui,
j'aimerais vous donner cette occasion. Juste avec tous les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, oui, pasteur, j'ai besoin aujourd'hui d'être un Jésus-Christ. J'ai besoin de confesser avec ma bouche le Seigneur. Si vous êtes là, vous avez besoin de donner ta vie à Jésus. Juste levez la main, on va prier pour vous ce matin. Si vous êtes là et vous avez besoin de cette assurance d'être un Jésus. Alléluia. Alléluia. Je lève la main bien haut pour que je puisse le voir. Il y a une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Peut-être vous dites, mais moi, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai fait une prière. Mais dans le fond, je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment reçu Jésus comme Seigneur et Maître? Peut-être c'est vous et vous avez besoin ce matin de redédier et renouveler votre engagement envers Jésus. Juste levez la main. Est-ce que vous êtes là? Il y a une, deux personnes. Alléluia. On va faire cette prière ensemble. J'aimerais que tout le monde prie cela avec moi. Donc, Père Céleste, au nom de Jésus, je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur et mon Maître. À partir d'aujourd'hui, je vais l'obéir. Je vais le suivre. Ma vie est cachée en lui. J'ai été crucifié avec Jésus. C'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je mène aujourd'hui, je mène par la foi du Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Dieu est bon. Donc, je vous aime de tout mon cœur. Ce soir à 6h30, on va être ici.